Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Et tout de suite, voici le programme de notre émission. Washington change de fusil d'épaule sur l'Ukraine, la nouvelle constitution validée par la Cour suprême du Tchad et des pays européens réticents à confisquer des actifs russes. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accordé une interview exclusive à Spoutnik. Un ancien ambassadeur malien ainsi que deux responsables d'un parti politique malien ont décrypté les déclarations du chef de la diplomatie russe. L'ambassade russe a repris ses activités à Ouagadougou. L'ambassadeur russe en poste au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, ainsi que le ministre burkinabé des Affaires étrangères, livreront leurs impressions à notre micro. Marinka a été libérée par l'armée russe. Un politologue et expert militaire russe reviendra sur cette victoire clé de la Russie et fera le bilan des réalisations de Moscou dans son opération militaire spéciale en 2023. Changement de plan à Washington. La Maison-Blanche ne croit plus à une victoire totale ukrainienne face à la Russie selon Politico. Ainsi, les États-Unis se préparent à d'éventuelles négociations selon le média américain. Une situation délicate pour Joe Biden, qui avait axé sa politique sur un soutien inconditionnel à Kiev au moment où le compte à rebours pour les prochaines présidentielles de novembre 2024 est lancé. Un responsable du Congrès a déclaré à la publication américaine que les discussions sur les pourparlers de paix ont commencé, mais que l'administration présidentielle ne pouvait pas reculer publiquement sur le soutien à Kiev face au risque politique. Ce changement de stratégie est également lié, toujours selon le média, à l'épuisement des aides à l'Ukraine. Le 21 décembre dernier, John Kirby, le responsable des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale, avait prévenu que Washington arrivait à la fin de ses capacités. Washington a justement accordé le 27 décembre une dernière tranche d'aide à l'Ukraine de 250 millions de dollars. Un montant dérisoire par rapport aux 60 milliards de dollars que la Maison-Blanche souhaitait allouer à Kiev, mais qui a été bloqué par les républicains au début du mois. Ces derniers avaient jugé prioritaire la question migratoire à la frontière sud des États-Unis par rapport au dossier ukrainien. La Cour suprême du Tchad a définitivement validé les résultats du référendum pour la nouvelle constitution organisé le 17 décembre dernier. D'après les chiffres définitifs, le oui l'a emporté avec 85,90% des voix, tandis que le non a obtenu 14,10% des suffrages exprimés. La participation s'élève quant à elle à 62,8%. Enfin, la Cour suprême a rejeté le recours déposé par une coalition de l'opposition qui avait demandé l'annulation des résultats. Pour rappel, ce référendum portait sur les changements apportés à la loi fondamentale de ce pays. Le texte du projet qui était soumis au vote est basé sur la constitution de 1996 en vue de remplacer la version en vigueur depuis 2018. Les États-Unis ont proposé au G7 un plan portant sur la confiscation de 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés suite au lancement de l'opération spéciale russe en Ukraine. Ce sujet a été discuté ce mois-ci par les ministres des Finances du G7 et leur adjoint, rapporte le Financial Times. Toutefois, l'Europe, qui détient la majorité de ses actifs gelés, ne s'est pas montrée emballée par cette idée de Washington. Selon la publication, elle craint de possibles répercussions sur sa stabilité financière ainsi que des mesures de rétorsion de la part de la Russie. Moscou a justement averti les États-Unis qu'elle mettrait un terme à leurs relations diplomatiques en réponse à toute confiscation d'actifs. L'UE, le Royaume-Uni et la France ont également estimé que l'argent ne serait pas facilement disponible et serait insuffisant pour couvrir les besoins de la reconstruction de l'Ukraine. Selon eux, la saisie des actifs ne devrait pas se faire au détriment du soutien financier à Kiev en 2024. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accordé à Spoutnik un entretien exclusif. Il est revenu sur les dossiers internationaux de l'année. Il s'agit bien entendu de l'opération spéciale russe, qui a connu ces derniers jours une nouvelle victoire des forces armées de la Fédération de Russie, avec la libération de Marinka. D'autres sujets ont été abordés par le chef de la diplomatie russe. Il a notamment évoqué les BRICS, Groupe composé pour rappel de la Russie, du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud qui va accueillir en son sein de nouveaux membres le 1er janvier prochain. Selon M. Lavrov, des mécanismes alternatifs au dollar se développent au sein des BRICS. Il a qualifié le billet vert américain d'instrument d'influence et d'outil de changement de régime. Au micro de Spoutnik Afrique, Biraïm Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali, Oumar Mc Koné, président du parti politique Bloc pour le redressement et le développement du Mali, ainsi que Agali Wele, son vice-président, ont décrypté les déclarations du chef de la diplomatie russe. Sergueï Lavrov a qualifié le dollar d'outil d'ingérence et de changement de régime. D'après lui, c'est l'une des raisons qui pousse la Russie à chercher des mécanismes de paiement alternatifs. Je vous propose d'écouter les propos du ministre russe.
Tout le monde est fatigué du dollar qui devient un instrument d'influence et un instrument pour saper les positions légitimes des pays de différentes régions, ainsi qu'un instrument d'ingérence dans les affaires intérieures et de changement de régime. À propos, le président Lula a proposé de penser au procédé de paiement alternatif pour toute l'Amérique latine. Mais en complément à cette initiative régionale, il y a encore des propositions globales que les BRICS élaborent. Et au prochain sommet, en octobre 2024, à Kazan, les ministères des Finances et les banques centrales doivent présenter une proposition de ce genre.
Monsieur Soumaré, êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Et comment l'Afrique ressent-elle les conséquences négatives du système financier actuel? Et a-t-on besoin de réformes, selon vous?
C'est plus un constat que d'affirmation du ministre des Affaires étrangères. Effectivement, depuis les accords de Bretton Woods, maintenant, et même un peu plus avant, c'est le dollar qui est la monnaie de réserve. Et tout se fait en fonction de ça. Et vous savez que lorsqu'un pays détient la monnaie et que les transactions, les opérations et tout se fait par cette monnaie-là, c'est une souveraineté monétaire que ce pays a. Mais elle a au-delà même de sa frontière, donc dans le monde entier, avec toutes les implications géopolitiques que ça peut entraîner. Alors, c'est vrai que depuis un certain temps, au niveau des BRICS, donc ce monde alternatif qui est en train de se mettre en place avec le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et d'autres pays qui sont en rentrée, comme l'Éthiopie, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, etc. Bon, donc, et l'Argentine, donc c'est... On est, comme le dit le ministre, une autre alternative est en train de se dessiner. Et je crois que le yen chinois en est une des démonstrations, comme le rouble russe. Parce que de plus en plus, les transactions avec le système d'embargo que l'Occident a voulu, par exemple, créer au niveau de la Russie, qui malheureusement n'a pas pris, et pour eux, malheureusement pour eux, mais heureusement pour la communauté internationale et pour la stabilité internationale, beaucoup de transactions maintenant se font en rouble ou en yen, parce que c'est un désir de pouvoir maintenant multiplier les possibilités au niveau de l'utilisation de la monnaie dans le commerce international. Et c'est une leçon que nous, certains pays africains qui évoluons au sein du franc CFA, qui régit presque un grand nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, est un exemple. Parce que on considère que la souveraineté monétaire et le droit d'utiliser sa monnaie pour faire des transactions de façon bilatérale ou multilatérale est un droit que chaque État, chaque groupement d'État a le droit d'avoir. Et donc, la force du dollar, on le mesure en fonction de la capacité que certains pays veulent utiliser ce dollar-là. Mais à partir du moment où une autre alternative se met en place, c'est la preuve que y a une prise de conscience, il y a un éclatement d'un ancien ordre économique et monétaire ancien et qui laisse maintenant surgir une autre capacité de faire des transactions monétaires sans passer par la dictature du dollar. Et ça, je crois que c'est toute la communauté internationale qui doit se mettre d'accord sur ce plan-là. De toute façon, les BRICS ont même créé une banque centrale, donc et ça prouve que le courant est irréversible. Et au niveau des pays africains, au niveau par exemple du Mali, les États sahéliens, et il y a le débat sur la création d'une monnaie qui pourrait peut-être même être arrimée au yen ou au rouble ou bien un paquet de monnaie qui se trouve au niveau des BRICS. Alors, cette réflexion est en cours. Et c'est ça qui va permettre le développement économique dans cette partie de l'Afrique subsaharienne qui est en proie à l'insécurité généralisée, le plus souvent initiée par des groupes d'intérêt extra-africains, extra-sahéliens. Alors, c'est ça qui va pouvoir permettre la mise en place d'industries, la mise en place de structures de production qui vont enclencher un développement. Tant qu'une monnaie n'est pas maîtrisée par un pays, il est illusoire de penser à un développement, il est illusoire de penser à une souveraineté totale et il est illusoire de croire que des pressions et des répercussions ne peuvent pas se faire dans ce pays-là.
Et vous, Monsieur Koné, que pensez-vous des propos de Monsieur Lavrov sur le dollar ?
Je suis d'accord avec, nous partageons le mécanisme financier présenté par les BRICS, qui pour nous est un système alternatif moins contraignant pour l'Afrique et correspond à notre vision basée sur une économie multipolaire, suivant le principe du gagnant-gagnant. Donc, nous privilégions le point de vue des BRICS pour la diversité en tenant compte des spécificités de chaque pays pour avoir un système économique plus fiable et plus viable. Voilà. Alors, nous pensons aussi que la politique monétaire conduite autour du dollar, notamment du FMI et de la Banque mondiale, est très, très contraignante, sinon négative, pour le développement des pays d'Afrique. Alors, en un mot, ça ne permet pas un vrai développement industriel, ni la mise en œuvre des infrastructures dont l'Afrique en a besoin. Ça les empêche de voir le jour.
Et Monsieur Wele, quelle est votre opinion ?
Et nous savons que actuellement, le dollar est dans une position difficile, et ça, c'est la situation que nous connaissons. Et nous savons qu'il y a eu des ingérences dans les affaires intérieures des différents pays et pour des questions économiques. Et nous savons également les États-Unis ayant ce monopole, donc c'est d'abord les États-Unis, et c'est un outil qui est toujours utilisé pour acheter d'une manière ou d'une autre économiquement sur les pays. Et c'est un élément important, un facteur dominant pour une économie. Et le dollar a été à la limite imposé. Si c'est imposé, ça veut dire forcément cette imposition va agir sur les différents pays. Et on peut toujours l'utiliser et ça a été toujours fait comme ça, de faire en sorte que le dollar puisse être à un niveau vraiment dominant. Et toutes les stratégies sont développées et maintenues par rapport à cette stratégie. De façon générale, on a constaté assez de guerres dans le monde et ces guerres sont souvent entretenues, soutenues et par les puissances et précisément par les États-Unis. Il y a eu tellement de guerres où les États-Unis ont intervenu et quand tu regardes derrière, c'est juste des questions économiques, c'est pour des questions de monnaie, même si on ne le dit pas. Et c'est des situations qui sont réelles. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons toutes les preuves que la monnaie est utilisée pour dominer et gérer les différentes affaires au niveau des pays. Même dans la sous-région africaine, c'est ce que nous constatons. Avec le franc CFA, c'est une ingérence économique. Donc, c'est la même chose que le dollar. Et c'est pourquoi il faudra que les gens réfléchissent. Et par rapport à ce qui va être affirmé, et je confirme par rapport à ce qui a été dit par l'Europe. Quand nous regardons, et nous sommes sous le poids du système financier existant, et surtout les pays du Sud, surtout les pays africains. Et Pourquoi? Parce que ce système financier est dominé par certaines institutions, et comme la Banque mondiale, les FMI, bref. Et nous savons que ces institutions agissent le plus souvent pour l'intérêt des puissants qui sont derrière, comme on dit, ces institutions. Et on ne peut pas occulter, les États-Unis. Donc tout ce qui est fait, que ce soit les appuis dans ces institutions, on oblige à la limite les différents pays à subir, à accepter. Et dans un tel contexte, c'est l'intérêt de ces puissances, précisément des États-Unis, qui sont mises devant. Et ces effets sont prévisibles partout et sont même visibles. Et nous avons eu des réformes dans nos différents pays, la réforme de l'éducation, où on a demandé aux gens d'être à la retraite anticipée, l'exemple, à l'époque, en son temps, et qui a été catastrophique dans nos différents pays. Et nous sommes tous dans ces conséquences. Et c'est fait savamment orchestré, moi je le dis tout le temps, je dis c'est fait exprès, c'est pour nous mettre en retard, etc., etc. C'est pour juste leur domination, leur propre domination, et qu'ils dégagent des stratégies et on impose par rapport à certaines acquisitions, avoir certaines facilités par rapport à ces institutions. Et aujourd'hui, l'Afrique, les pays du Sud sont sous ce poids, effectivement. Et ce qui veut dire qu'il faut une alternative qui est obligatoire, qui est indiscutable, qui est incontournable. Et c'est pourquoi tous les pays du Sud doivent réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est une stratégie qu'il faut adopter pour que les uns et les autres puissent retrouver leur valeur réelle, pour qu'ils ne soient pas sous la domination d'un autre poids économique, pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait plus d'équité dans la gestion de ce monde. Et cette alternative est déjà amorcée parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont dans cette réflexion. Et même dans les pays du Sud comme les nôtres, déjà on pense à la création des monnaies, même si on ne le dit pas officiellement. Tout le monde demande, tout le monde réclame. Et cette impulsion étant donnée, et c'est sûr, les gens vont se retrouver pour aller à cette alternative qui est même indiscutable à la date d'aujourd'hui.
Monsieur connaît la stratégie occidentale visant à infliger une défaite stratégique à la Russie a lamentablement échoué, a dit Monsieur Lavrov. Comment est-ce que cette perte de l'Occident est vue en Afrique?
En effet, la stratégie occidentale à défaire la Russie à travers le conflit entre la Russie et l'Ukraine, nous pensons que cette stratégie a échoué. Et les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont augmenté en 2023 de 30%. Alors de là, nous pouvons nous poser la question, au détriment de qui? Donc ça a mené à un déséquilibre même envers ces pays occidentaux, hein, qui, je pense aussi, souffrent de ce unilatéralisme envers l'Ukraine. Bon, eux-mêmes, ils en payent les pots cassés quelque part.
Et vous, Monsieur Wele, comment voyez-vous depuis l'Afrique cet échec de l'Occident?
Quand vous regardez, l'Afrique n'a pas un parcours aujourd'hui spectaculaire ni luisant. Et les gens, tous les problèmes, c'est en Afrique. Quand on prend un problème, c'est toujours de l'Afrique. Et tous les maux sont en Afrique. Or, l'Afrique est un continent vachement riche, qui regorge assez de ressources. Et c'est valable pour beaucoup de pays du Sud. Et aujourd'hui, je dis bien le déclin de l'Occident, je le dis comme ça, le déclin de l'Occident qui est amorcé et qui va continuer de façon vertigineuse est appréciable par tous ceux qui ont les soucis de voir leur économie s'épanouir, qui ont les soucis de s'épanouir, qui ont les soucis d'avoir plus de souveraineté et d'autorité, d'autonomie, ont ce sentiment de satisfaction. Parce que avec cette défaite, on espère avoir un nouveau équilibre mondial. On espère avoir un nouveau élan pour les gens qui ont été opprimés, qui ont été bradés, des gens qui ont été où on a volé même les richesses. Et ces pays, tous ceux qui ont conscience, espèrent que ce déclin, cette défaite soit une réalité confirmée sur tout l'échiquier mondial. Et aujourd'hui, personnellement, je suis très fier. Je suis très content que cette descente vertigineuse du déclin de l'Occident par rapport à beaucoup de secteurs s'affirme pour que nous puissions émerger. Et sans cela, on n'a pas d'autres opportunités parce que c'est eux qui nous mettent dans cette stratégie de domination. Et malheureusement, les stratégies mises en place, ils ne se rendent pas compte et ils pensent être toujours à l'avant, à l'avant-garde. Et malheureusement, les erreurs viennent d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils font vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Les sanctions prises par-ci, par-là, contre tel État, malheureusement, retournent encore, c'est le retour à l'envoyeur. Ceux qui sont sanctionnés, ceux qui ont l'impact positif de la sanction. Et on a constaté sur tous les secteurs aujourd'hui, que ce soit les sanctions contre la Russie, que ce soit les sanctions contre nous, les pays qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina, aujourd'hui, c'est une fierté, tout le monde est content, tout le monde est fier d'avoir les différentes autorités qui sont là, même si on pense qu'ils sont dans un changement anticonstitutionnel, mais c'est un changement positif. Et c'est une déviation positive qui va se répliquer dans toute la sous-région, on n'a même pas le choix. Parce que tous les pays ont conscience, tous les pays apprécient ce qui se fait dans ces trois pays. Et vous allez voir, il y aura un environnement de changement dans les 24 mois qui vont suivre. C'est même incontestable. On sent déjà des embryons, des tensions dans certains pays. Et vous allez voir, il y aura des changements vraiment. Et le pôle attractif maintenant aujourd'hui, c'est le pôle russe. Qui a plus de chimotactisme avec les autres, qui a plus d'attraction. La Russie est mieux vue dans tous les secteurs. Le leadership de la Russie est dominant. Le leadership de Poutine est dominant. Et Poutine est une exception, qu'on le dise ou pas. On a toujours voulu la battre et ils vont toujours échouer parce qu'il a plus de stratégie, il a dur dans le système, il connaît plus d'astuces et il va s'en sortir, il va aider les autres pays à émerger.
Monsieur Soumaré, comment analysez-vous ce camouflet occidental face à la Russie ?
Dans le long terme, dans le court et dans le long terme, la politique de sanctions, où est-ce qu'elle puisse être menée, est un échec. Ça ne marche pas. Parce que l'interdépendance économique, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est un constat réel. Notre pays, le Mali, nous avons nous aussi vécu cette politique-là, même si c'est enlevé de façon partielle les sanctions, mais la plupart de plus de 60% de notre commerce, nous le faisons avec des pays qui nous entourent, et une sanction, ça retourne sur eux immanquablement. Alors c'est le même cas qu'avec la Russie. La Russie est le nerf de l'économie mondiale, c'est l'énergie. Sans énergie, je ne vois pas ce qu'on peut bien faire. Donc, et le blé, pour tout quoi, ça c'est quelque chose de fondamental. Alors, on ne peut pas accuser la Russie de certaines d'être expansionniste, d'être des choses comme ça, et employer une politique de sanctions qui est presque sans aller trop loin, qui est par rapport aux populations, c'est extraordinairement inefficace et puis dangereux. Et ensuite, venir comme ça se plaindre que la situation économique en Occident est difficile, comme le font certains hommes politiques occidentaux, qui sont d'ailleurs très lucides. Par rapport à cette politique qui ne tient pas.
Selon Sergueï Lavrov dans Les Affaires mondiales, la Russie va mettre progressivement en œuvre la culture des BRICS, dont un des piliers est la multipolarité. Écoutons tout de suite cet extrait de l'interview.
La formation du monde multipolaire, appelé aussi le monde polycentrique, est une conception ancienne. Elle a été formulée par Evgeny Primakov quand le groupe ERIC, Russie and Chine, était en formation. Par la suite, il s'est transformé en BRIC avec le Brésil, suivi de l'Afrique du Sud qui l'a transformé en BRICS. Aujourd'hui, les BRICS unissent une dizaine de pays, et encore 27 pays font la queue pour recevoir au moins le statut d'État partenaire. Parce qu'il est impossible d'exploser la composition du groupe en une courte période, nous allons mettre progressivement en œuvre la culture des BRICS dans les affaires mondiales.
Monsieur Soumaré, quels sont selon vous les avantages d'un tel modèle pour l'Afrique ?
D'abord, c'est cette extraordinaire possibilité d'avoir des relations stratégique des relations économiques avec n'importe qui. Première des choses. Et deuxième des choses, c'est une capacité pour ces pays-là de pouvoir non seulement diriger leur politique vis-à-vis de l'extérieur, mais également de choisir les partenaires stratégiques avec qui ils veulent travailler. Alors, cette ambition du BRICS que le ministre des Affaires étrangères russe a relevée est une aubaine que tous les pays d'Afrique ou du Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, même si au niveau du Sud global, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs différences, tout le monde n'est pas au même stade de développement, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce monde-là est prêt à travailler dans un cadre multilatéral de coopération pour pouvoir véritablement se sortir de certaines dominations occidentales qui existent depuis assez longtemps et qui ne permet pas, qui milite pour un alignement direct derrière les intérêts occidentaux. Mais je crois que ça, c'est la martingale de sortie de crise pour la plupart de nos États, particulièrement les États du Sahel, dont le Mali fait partie.
Et vous, Monsieur Wele, quels sont selon vous les avantages de ce monde multipolaire à travers les BRICS ?
Et les avantages des BRICS, c'est déjà des pays qui ont des traits communs, c'est des pays qui ont décidé de prendre leur volonté, c'est des pays qui sont dans un besoin d'émerger, qui ont été opprimés, qui ont été sanctionnés souvent de façon injuste et qui ont été délaissés pour compte, mal jugés et qui ont pris conscience de leur force. Et d'abord, c'est les pays le plus souvent émergents qui ont plus d'atouts, qui ont plus de ressources en termes même de ressources humaines et qui ont plus de populations plus jeunes et qui ont des ressources naturelles non utilisées qui sont encore exceptionnelles. Et ce qui fait que le BRICS sera forcément dominant. Et quand vous regardez la levée des fonds au niveau du BRICS ces dernières années, et elle est progressive et puis elle est rassurante. Et quand vous regardez aujourd'hui les demandes d'adhésion au BRICS, il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer. Il y a plus d'engouement. Et les gens ont le goût de changer. Et les pays ont compris, beaucoup de peuples ont compris ce qui se passe de leur côté. Et vous allez voir même ceux qui sont supposés être des amis de ce côté-là, dominant, qui existait, sont plus tentés de venir vers ce nouveau pôle. Voilà, vers ce nouveau bloc. Certains cherchent même à être des deux côtés. Imaginez quand Macron a demandé d'être à la session du BRICS passée. C'est une bonne alternative pour nous et pour que les différents pays puissent émerger et il y a plus d'opportunités, il y a plus de possibilités vraiment de tirer les autres pays vers l'équilibre et même pour dépasser l'ancien système.
Et vous, Monsieur Koné, qu'est-ce que vous en pensez ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma première réponse, je crois, nous sommes favorables à cette culture des BRICS. Hein, parce que nous avons, les pays africains ont des avantages, de multiples avantages, notamment au niveau de la sécurité, des avantages monétaires aussi. Nous pensons que, par exemple, pour mon pays, je pense que le Mali doit sortir du franc CFA, qui est vraiment une abomination économique pour tous les États qui utilisent cette monnaie, hein, qui est une monnaie, bien d'économistes l'ont décrit, hein, une monnaie de servitude qui ne sert à rien, qui empêche le développement. Hein. Donc, nous croyons que aussi avoir le choix de nos partenariats. Nous croyons aussi qu'il faut un vrai développement industriel en Afrique. Donc, la culture des BRICS, nous imaginons que c'est une alternative pour nous qui permettrait d'atteindre nos objectifs.
Monsieur Koné, Sergueï Lavrov a qualifié d'arnaque la formule de paix proposée par Zelensky. Cette formule ne prend pas en compte les droits des populations russophones de l'Ukraine, ce qui est à l'origine du conflit en cours. Pourquoi, à votre avis, l'Occident ferme les yeux face aux crimes commis par les nationalistes ukrainiens contre ces populations ?
Nous pensons que les prises de position à double standard de l'Occident étonnent beaucoup en Afrique. Mais à notre analyse, ça se justifie par leur idéologie impérialiste. Or, le monde a beaucoup changé et cette domination, il faudrait que ça change. En ce qui concerne la formule de paix entre la Russie et l'Ukraine, ce sont ces deux pays qui doivent présenter, en tout cas élaborer un cadre de discussion avec l'appui des pays sincères et non hostiles à la Russie pour permettre d'arriver à une paix juste et durable. Ça, c'est notre opinion, en tout cas l'opinion du président du BRDM, du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, sur ces différentes questions. Voilà, je pense que le double standard, ça doit être s'arrêter maintenant, quoi. Trop, c'est trop. Parce qu'on ne peut pas... Nous le connaissons aussi, cette problématique, même en Afrique. D'un côté, ils traitent certains militaires de putschistes, et de l'autre côté, ils amadouent des putschistes. Alors, bon, qui nous explique la différence entre ces coups d'État, quoi. D'un côté, ils soutiennent des coups d'État, de l'autre côté, ils traitent de putschistes non fréquentables. Bon, ça, c'est fini, ça, maintenant. Les Africains sont assez majeurs pour savoir les dirigeants qui souhaitent les guider pendant un moment pour faire face à une difficulté. Donc, je saisis de l'occasion aussi de dire que le Mali, mon pays, a trouvé de grands bénéfices dans ses relations de coopération et d'amitié avec la Russie. Cette relation qui est vieille, hein, de toute façon, elle est très vieille depuis 1960, qui a été mise à l'ordre du jour, hein, qui a été rénovée. Et la Russie nous a apporté un soutien sans faille pour combattre le terrorisme. Et sinon, le Mali était exposé au terrorisme depuis une dizaine d'années, et nous, avec un sanctuaire à Kidal. Alors, grand merci, Dieu merci, nous avons pu reprendre Kidal. Le 14 novembre, les forces armées maliennes sont entrées à Kidal. Et c'est curieusement, ces terroristes, ils ont fui vers l'Algérie cette fois-ci. Alors, donc c'est ça aussi que nous souhaitons avoir de vrais amis, hein, qui nous aident, avec qui on peut avoir la confiance pour traiter nos problèmes. Voilà, donc nous sommes très très fiers et nous félicitons la Fédération de Russie pour son amitié non conditionnée, hein, de nous avoir pu rétablir. Nous allons maintenant vers la stabilité du pays, d'avoir compris notre vision et d'être un ami sincère.
Et vous, Monsieur Soumaré, pourquoi, selon vous, les Occidentaux passent l'éponge sur les crimes commis par les nationalistes ukrainiens ?
L'Occident n'a jamais, de manière ou d'une autre, abandonné son plan de faire reculer les frontières de l'OTAN de plus en plus vers l'Est, malgré la promesse qui a été faite en février par le James Baker aux autorités soviétiques dans cette période-là. Alors donc ça, c'est une dynamique, mais cette dynamique a été freinée puisque l'événement de l'Ukraine, en réalité, ne doit se comprendre que dans cette optique-là, cette optique de faire en sorte que il y avait ce projet, mais qui ne dit pas son nom, même si ce n'est pas une déclaration officielle, du fait que l'Ukraine aurait pu, d'une manière ou d'une autre, être membre de l'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée en 1949. Et donc, moi, je crois que c'est ça, d'abord, la dynamique. La seconde dynamique, c'est véritablement le plan du dirigeant ukrainien est difficilement soutenable du point de vue non seulement historique, mais du point de vue géostratégique. Alors, du point de vue géostratégique, on l'a dit, hein, c'est cette volonté de vouloir étendre les frontières de l'OTAN, mais du point de vue historique, on ne peut pas... Rappelez-vous, hein, la Russie pure, c'est l'Ukraine. L'Ukraine peut même être revendiquée de façon totale par la Russie. La Russie est le cœur de la Russie, c'est Kiev. Ça, c'est je suis pas historien, mais il faut le savoir. Et également, on l'a dit, je l'ai dit tantôt, la Crimée et puis toute cette partie est. Mais il n'y a rien à faire. C'est la grande majorité, c'est des populations russophones. On parle d'ailleurs le russe. On ne peut pas interdire aux gens de parler russe, ils sont majoritaires, il y a eu un référendum, et également la Crimée. Alors là, ça c'est autre chose, c'est une très 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 longue histoire qui nous ramène jusqu'à Catherine II, hein, la reine Catherine II. Alors, donc, je crois que là, véritablement, le plan de rechange du président, enfin, du président ukrainien, me paraît difficilement envisageable du point de vue pratico-pratique. Donc, il y a des données stratégiques et des données historiques. On ne peut pas en faire l'économie. Même s'ils ne le disent pas tout haut, d'ailleurs, on sent bien une certaine gêne. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des va-t-en-guerre au niveau de l'Occident, certains pays avec qui sont en concurrence hégémonique directe avec la Russie. Donc, vous voyez à qui je veux faire allusion, c'est les États-Unis et certains autres pays qui suivent carrément aveuglément les États-Unis, comme certains pays comme la Pologne et certains pays au niveau de l'Est européen. Mais le réalisme, parce que ça existe au sein même de ces États, il y a des centres de recherche, des intellectuels qui sont convaincus que c'est pas là la solution. Et je suis sûr que dans le long terme, ça je vous l'affirme, d'ailleurs il y a certains pays comme certains pays qui ont proposé comme plan de sortie de laisser la partie Est, là, le Donbass et tout ça, la Crimée, tout ça, à la Russie, parce que c'était normal, et pour trouver une solution. Hein, même les Turcs expriment quelques nuances. Bon, mais ça, c'est clair que la volonté du président Poutine est véritablement de recouvrer son unité stratégique, son unité géopolitique. Et ça, c'est le droit de tout chef d'État d'un pays que de répondre aux aspirations profondes de son peuple. Hein. Alors, donc, je crois que on ne doit pas se faire des illusions à ce sujet-là. Le plan du ukrainien ne tient pas et ne peut pas tenir la route. Et l'histoire nous le dira rapidement, hein, dans l'avenir nous le dira. J'ai la forte conviction que les choses vont aller dans le sens qu'ils n'attendent pas du tout. Hein. Donc voilà, je ne crois pas du tout à ce plan-là.
Et vous, Monsieur Wellet, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude des Occidentaux?
De façon générale, vous savez, ce qu'on a constaté, même de loin, on a constaté que les Occidentaux, en fait, défendent leurs propres intérêts. Le fait qu'ils n'en parlent pas, qu'ils ferment les yeux, c'est parce que peut-être c'est leur choix, c'est leur position. Et si c'est leur position, ils ne peuvent pas prendre une position contraire. Et ils vont aller dans la logique, soit de ne pas en parler, soit de ne pas en débattre. Et c'est la même situation au Mali. Je prends l'exemple quand l'armée malienne a pris Kidal. On devrait féliciter le Mali, on devrait faire en sorte que les gens... Mais personne ne sait un silence radio. C'est parce que ce qui se passe à Kidal, c'est les gens qui sont derrière. Ils sont toujours comme ça. Ceux qui ne sont pas dans leur intérêt, ils n'en parlent pas. Et c'est la situation réelle. Parce qu'ils sont complices probablement de la situation. Ils ne peuvent pas être contents de leur défaite. Ils ne peuvent pas manifester leur faiblesse. Ils ne peuvent pas faire voir les côtés négatifs de leurs actions. Ils vont toujours les camoufler. Et ils ont été toujours comme ça dans tout ce qu'ils font.
C'était Birahim Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de 3 présidents de la République du Mali, Oumar Mc Koné, président du parti politique Bloc pour le redressement et le développement du Mali, ainsi que Agali Wele, son vice-président pour Spoutnik Afrique. Ils ont décrypté les déclarations de Sergueï Lavrov à l'occasion d'une interview accordée à Spoutnik. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Aujourd'hui, c'est l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre pour vous accompagner. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio. L'ambassade de Russie a repris ses activités à Ouagadougou. Après une pause de 31 ans, les travaux de la mission diplomatique russe reprendront, conformément à la volonté du président russe Vladimir Poutine, qui avait déclaré lors du dernier sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg vouloir étendre la présence diplomatique de Moscou sur le continent africain. Ainsi, le Burkina Faso n'est pas le seul pays africain où Moscou rouvrira une ambassade. La diplomatie russe travaille actuellement sur la réouverture d'une mission diplomatique en Guinée équatoriale et au Soudan du Sud. Au micro de Spoutnik Afrique, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a livré ses impressions sur la réouverture de la mission diplomatique.
Qu'est-ce que signifie cet événement pour les relations entre nos deux pays dans le contexte actuel? Et comment vous voyez son importance?
Je vous remercie pour votre question. Je dirais que nous avons l'habitude de dire que les meilleurs témoignages d'amitié et de coopération, ça se constate toujours sur le terrain. C'est pas dans les discours. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est un témoignage qui cadre parfaitement avec ce constat. Le fait pour la Russie de décider d'ouvrir une représentation diplomatique à Ouaga ici comporte plusieurs messages. Le premier message, c'est le message de proximité, la nécessité d'être plus proche du Burkinabé. Le deuxième message, c'est celui de se mettre à la disposition des Burkinabés, donc de maintenir un dialogue consistant, permanent, pour qu'on puisse se comprendre au jour le jour. Et tous ces messages sont forcément soutenus par un esprit qui est assez simple, celui de la nécessité de renforcer nos liens d'amitié et de coopération, qui s'inscrivent dans une vision nouvelle, celle partagée par nos chefs d'État, qui ont décidé, dans un cadre, dans un contexte mondial où il y a, on va dire, des velléités de toutes parts, qui ont décidé de se rapprocher davantage et de laisser vraiment de la place à l'avenir de leur peuple. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est un témoignage fort du renforcement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie, qui reste un partenaire véritablement stratégique pour nous.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et comment cette rouverture, à votre avis, va faciliter les contacts entre Ouagadougou et Moscou?
Alors, comme je l'ai dit, lorsque vous êtes, vous avez juste quelques minutes à faire pour atteindre la chancellerie, c'est différent de lorsque vous devez prendre un vol pour aller jusqu'à Abidjan. Il y a des choses qu'on peut se dire de vive voix, et cette proximité fait que les portes du ministère des Affaires étrangères ici resteront ouvertes aux diplomates de la chancellerie, les portes de l'ensemble des ministères techniques qui sont à portée de main. Et donc, ça facilite d'abord le traitement des dossiers. Ça nous permet d'aller avec diligence et le faire dans un temps record, comme je le dis. Sous la transition, tout est urgent, il faut aller vite, et pour aller vite, il faut être en contact permanent. Donc, le problème de la distance est réglé déjà à travers cette proximité-là. Deuxièmement, comme je l'ai dit, ça montre que nous essayons d'être le plus proche possible. Le fait qu'il y ait des diplomates sur place ici, ça leur donne la possibilité de mieux comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Lorsque les fonctionnaires feront leur rapport, ce ne sera pas sur la base de ce qu'ils ont lu, mais ce sera sur la base de ce qu'ils ont vécu. Ils verront le soleil se lever, se coucher avec nous. Ils sentiront les parfums des rues avec nous. Ils verront les gens rire, pleurer, danser avec nous. Et ça, ça change beaucoup dans les relations d'amitié et de coopération. Donc, pour moi, nous sommes en train de nous inscrire véritablement dans des relations vraies et soutenues.
Merci beaucoup pour ces mots sincères. Et vous savez qu'aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, il a dit que la formation d'un monde multipolaire est une des tendances majeures aujourd'hui. Et en quoi l'ouverture de l'ambassade russe au Burkina Faso reflète-t-elle cette tendance? Et est-ce que la multipolarité est-elle nécessaire et imminente selon vous?
Bien sûr, La multipolarité, par définition, suppose qu'on reconnaisse les capacités d'autres pays, parce qu'ici, sur la scène internationale. Et cette position est défendue par la Russie et soutenue par le Burkina Faso. Il n'est pas concevable que nous soyons dans un monde à plus pratiquement 200 pays, à plus de 7 milliards d'habitants, et que le monopole soit concentré entre les mains du seul pays qui en constitue le pôle. Non, il faut sortir de cet engrenage pour permettre la pleine expression des capacités de chacun des pays autour des différents pôles qui vont se constituer. Donc la démarche que nous soutenons et qui est celle de la vision qui transparaît justement dans le discours du ministre Lafrance, c'est de dire qu'il n'est pas juste de confiner des pays sous le dictat de certains qui ont eu la chance de s'épanouir bien avant. Et le Burkina Faso s'accommodera de cette multipolarité en revendiquant sa pleine souveraineté, celle de lier des alliances avec qui il veut, celle de penser son avenir, de mobiliser les ressources pour l'atteinte de ses objectifs et d'évaluer. Donc nous sommes tout à fait à l'aise avec cette relation qui, comme je le dis, nous donne plus d'espace. Et la multipolarité, c'est une réalité. Et fermer les yeux là-dessus, c'est refuser d'accepter la course du monde.
Et merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous savez qu'il y a l'année 2024 qui est devant nous. Donc, comment vous voyez l'année 2024 pour nos relations bilatérales entre nos deux pays et à quoi faut-il s'attendre?
Alors, je vois l'année 2004 avec beaucoup d'espoir et d'attente. Espoir parce que la Russie soutient le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. L'année 2024, pour nous, doit être une année de retour à la paix. Et qui dit retour à la paix, dit reprise de la croissance. Donc nous avons des paliers à franchir ensemble. Le premier palier, c'est celle de l'urgence et de l'humanitaire que nous sommes en train d'achever avec le soutien de la Russie. Et ce palier doit ouvrir les portes sur une nouvelle dynamique qui est celle du business, celle de créer les conditions pour que les deux économies puissent mutuellement partager leurs acquis et nous permettre d'avancer. Donc je dirais que l'année 2024, pour moi, c'est l'année de l'envol réel de notre coopération qui va au-delà de la gestion des crises et qui doit s'inscrire dans une dynamique de développement partagé.
Merci beaucoup. Et la dernière question de notre interview, pourriez-vous dresser, s'il vous plaît, un court bilan de l'année 2023 pour les relations russo-burkinabé? Quelles réalisations ont été les plus importantes?
Je dirais que toutes les réalisations ont été importantes. D'abord, sur le plan politique, nos deux chefs d'État ont donné des signaux forts. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a été reçu à Saint-Pétersbourg par son Excellence le président Poutine, à qui il a eu l'occasion de décliner sa vision pour le Burkina et pour le Sahel. Pour nous, c'est un signal politique fort et qui doit s'inscrire dans les annales. Deuxièmement, ces discours ont été immédiatement suivis des faits. La Russie, la coopération militaire avec la Russie se porte parfaitement bien. Les décisions qui ont été prises pour gérer les conjonctures humanitaires, je vois par là le don de blé qu'a annoncé le président Poutine, a été immédiatement suivi des faits. Et nous sommes actuellement en train de charger les derniers camions pour le Burkina. Le secteur énergétique s'annonce avec beaucoup d'espoir. Nous avons eu énormément d'échanges de délégations, dont je dirais que la phase de consultation bilatérale pour définir les projets d'intérêt partagé a été pour moi un succès. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment de matière pour dire dans tel secteur, voilà ce que nous voulons, dans tel secteur, voilà ce que nous voulons. Donc je pense que l'année 2023 a été une belle année d'entrée en matière et qui nous a permis de définir les priorités de notre coopération. Nous allons amorcer une phase où nous allons discuter des modalités pratiques de mise en œuvre.
C'était Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, en exclusivité pour Sputnik Afrique. Il a commenté la réouverture de l'ambassade de Russie dans son pays et fait le bilan des relations russo-burkinabées. Le chef de la diplomatie burkinabée n'a pas été le seul à réagir à cet événement marquant à notre micro. Alexei Saltykov, l'ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, s'est également exprimé en exclusivité au micro de Sputnik Afrique. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
L'ambassade russe au Burkina Faso rouvre ses portes. Qu'est-ce que signifie cet événement pour les relations entre nos deux pays dans le contexte actuel et comment voyez-vous son importance?
L'ambassade de Russie au Burkina Faso a repris ses activités après 31 ans d'absence physique sur le territoire burkinabé. Mais je dois dire que pendant toutes ces années, la coopération bilatérale entre nos deux pays ne s'arrêtait pas. Cette coopération a été menée, conduite par l'ambassade de Russie à Abidjan. La réouverture de la chancellerie de l'ambassade de Russie à Ouagadougou signifie beaucoup de choses. Parce que, tout d'abord, ça démontre la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. Donc, l'ambassade de Russie répond au besoin d'accélérer ces relations qui ont déjà une grande histoire, une longue histoire qui date des années de l'indépendance. Je voudrais rappeler que les relations diplomatiques ont été établies en année 1967. Donc, bien sûr, ça va donner un élan positif à l'examen des dossiers, des projets, à l'expédition des documents. Donc, ça va faciliter beaucoup la tâche qui concerne le développement des relations bilatérales. Voilà comment je peux vous dire à votre question.
D'accord, merci beaucoup. Et comment cette réouverture va faciliter les contacts entre Ouagadougou et Moscou, à votre avis?
Je pense qu'il y a un impact direct dans ce sens-là. Parce que la présence diplomatique sur un territoire, n'est-ce pas, facilite toujours les contacts. Donc, tout d'abord, on va diminuer l'importance ou l'absence de section consulaire. Parce que il faut livrer les visas. Bon, là, il y aura la section consulaire qui va s'en occuper. C'est pas la peine de faire expédier le document pour les visas à Abidjan. Ça prend du temps. Donc, bien sûr que ça va faciliter les contacts. Donc, dans tous les sens, du point de vue consulaire, du point de vue politique, diplomatique, économique, humanitaire, et j'en passe.
Et comment voyez-vous l'année 2024 pour nos relations bilatérales? À quoi faut-il s'attendre, à votre avis?
L'année en cours, en juillet dernier, il y a eu le sommet. Deuxième sommet, Russie-Afrique, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Comme vous le savez, il y a eu une rencontre entre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Pendant cette rencontre, il y a eu beaucoup de questions qui ont été discutées. Et je suis sûr que l'année prochaine, on doit penser à mettre en exécution les questions qui ont été discutées entre les deux chefs d'État. Donc ça, c'est la priorité. Il y a eu plusieurs domaines qui ont été touchés, dans le domaine économique, économique, militaire, politique, humanitaire. Donc, il y a eu des décisions entre les deux chefs d'État et maintenant, c'est l'ambassade qui va s'atteler à donner une impulsion à ce que ces décisions soient abouties à des résultats concrets dans les relations bilatérales.
C'était Alexei Saltykov, ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire pour Sputnik Afrique. Il nous a livré ses impressions suite à la réouverture d'une ambassade russe au Burkina Faso. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de Contact qui vous accompagne. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM à Bamako. Marinka a été libérée par l'armée russe. Cette localité située dans la République populaire de Donetsk était hautement stratégique pour l'armée ukrainienne. Cette défaite lui coupe des lignes d'approvisionnement et l'éloigne de la ville de Donetsk et des populations civiles qu'elle avait pris pour habitude de bombarder depuis cette localité. Cela confirme également encore un peu plus l'échec de la contre-offensive ukrainienne, annoncée à grands coups d'opérations médiatiques durant la première moitié de l'année 2023. La libération de cette ville est également la cerise sur le gâteau pour Moscou, qui a remporté des victoires clés au cours de cette année. Le recrutement de volontaires par contrat au sein de l'armée russe a été un succès, puisque près de 500 000 hommes ont rejoint les forces armées de la Fédération de Russie depuis le début de l'année pour défendre la patrie, tandis que dans le même temps, la mobilisation en Ukraine patine. Un projet d'enrôlement par Kiev de 500 000 personnes suscite des débats au sein de la population ukrainienne lassée de ce conflit. Au micro de Sputnik Afrique, Yuri Podolyaka, politologue et expert militaire russe, a commenté la libération de Marinka par la Russie et dressé le bilan de l'opération spéciale russe pour cette année 2023. Quelle est votre évaluation des succès de l'opération militaire spéciale au cours de l'année écoulée ?
On peut les diviser en plusieurs étapes. La première étape est celle de l'hiver dernier et du printemps précédent, lorsque nous avons mené des opérations offensives et libéré plusieurs villes, Soledar et Artemovsk en premier lieu. Nous avons infligé de sérieuses défaites aux forces ukrainiennes qui, en fin de compte, n'ont pas pu avancer avec succès dans la direction de Zaporogier. La deuxième étape a été la contre-offensive d'été, qui a connu un échec écrasant, malgré la préparation et l'utilisation d'énormes ressources, d'argent et d'équipements. L'ennemi n'a rien pu y faire, il n'a fait qu'épuiser ses réserves, et en conséquence, nous sommes passés en douceur à la troisième étape de cette campagne en 2023, notre offensive, et ce dans plusieurs directions à la fois. Si nous lisons les informations du jour, nous constaterons avec surprise que nous avançons partout, vraiment partout.
L'une des étapes de cette offensive a été la libération de Marinka dans la République populaire de Donetsk. Que signifie cet événement et quelle est son importance ?
Cet événement revêt plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect politique. Marinka est la première ville, et c'est une ville, pas seulement un village, qui a été libérée par notre armée depuis le printemps dernier, lorsque nous avons complètement libéré Artyomovsk, fin mai. Le deuxième point est d'ordre militaire. Dans cette zone, nous avons percé la principale ligne de défense de l'ennemi qui l'a construite depuis de nombreuses années, et que nous gagnons un avantage stratégique très important. Un autre point très important est d'ordre psychologique. Pour l'ennemi qui a, à une énième reprise, déclaré que Marinka était imprenable, il s'agit d'une rupture psychologique très importante. Les soldats ukrainiens comprennent déjà que sur d'autres axes, ils sont condamnés.
Et selon vous, dans quelle mesure une telle évolution du conflit affectera le soutien de l'Occident à Kiev ?
Les Occidentaux sont des rationalistes, des hommes d'affaires, ils ne jettent pas large par les fenêtres. Par conséquent, Zelensky, pour les persuader de bien soutenir l'Ukraine, doit les convaincre qu'il peut assurer la réalisation de l'un ou l'autre des plans de l'Occident. Cela ne signifie pas que ce sera une victoire. Non, l'Occident comprend parfaitement qu'il n'est pas question d'une victoire de l'Ukraine. La question est de savoir quel sera le résultat de la défaite de l'Ukraine. Quelle forme prendra l'Europe de l'Est après la défaite de l'Ukraine ? Je pense que les prochains mois le montreront.
C'était Yuri Podolyaka, politologue et expert militaire russe pour Sputnik Afrique. Il a commenté la libération de Marinka par l'armée russe et fait le bilan de l'opération spéciale russe pour cette année 2023. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouverai avec plaisir en 2024 pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.